Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 51, Daf Nun Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Donc voilà ce que Rava propose comme explication du raisonnement. Lo im amarta betuma hamura sheken ena osa kayotseba. Tu ne peux pas dire cette comparaison. Parce que dans le cas de la Touma Hamura, elle n'est pas capable de générer une Touma à un objet de la même catégorie qu'elle-même. C'est-à-dire que cet homme qui est devenu impur en consommant un kazaïd de Nivlat of Tahor ne peut pas rendre un autre homme tamé, comme l'explique Rashi, parce qu'un homme ne rend pas tamé un autre homme. Un homme ne pouvant être tamé que par un Avatouma. Et celui qui a consommé de cet oiseau, il est devenu Rishon de Touma. Tomar, peux-tu dire la même chose, Betum Akala, pour une Touma légère, chez Osaka Otseba, une Touma légère, celle des aliments, elle est capable de transmettre une Touma de même ordre à un aliment, bien que, en fait, cette disposition soit, comme le dit Rashi, des Rabbanan. Amale Abaye, Abaye a dit à Rava, Kol Dechenu, au contraire, ce que tu as dit, ça nous donne un raisonnement a fortiori. Et voilà comment il faut raisonner. Uma Touma Hamura de Kila. Si déjà la Touma stricte qui a cet aspect allégé, l'Enao Sekaotseba, qu'elle est incapable de se transmettre à un autre homme, de même qu'elle est venue rendre impur un homme, Metamea Shelo Bemarchava. Cependant, elle rend impur sans intention. Touma Kala da Hamira. La Touma légère, celle des aliments, qui a cet aspect strict de Osa Kaotseba, qu'elle est capable de se transmettre à un autre aliment, au même niveau, Enodin, Shemetamea, Shelomarchava, n'est-il pas logique de dire qu'elle puisse, a fortiori, se transmettre sans intention? Donc ici, on est un peu dans une impasse. Et là, Amar Rav Shechet. Mais Rav Shechet a donné une autre explication. Achika Amar, voilà comment il faut comprendre la Braïta. Lo, voilà ce que disent les Chachamim. Non, Im Amar Tabetouma Hamura, si ce que tu as dit est valable pour une Touma strict, Cheken, Ena, Tzricha, Hercher, en effet, elle n'a pas besoin de Hercher, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu d'humectation par un des liquides, comme Rachid a expliqué à plusieurs reprises, parce que Sofa le Tamé Touma Hamura, finalement, elle aura une Touma très grande et elle n'a pas besoin de ce Hercher pour devenir Tamé actuellement. Tomar Touma Kala, pourrais-tu dire la même chose pour une Touma légère, la Touma des aliments, chez Tricha Hercher, qui ne peut s'étendre que si il y a eu humectation. La Gemara s'étonne, ou Mitzricha Hercher, est-ce que le cadavre d'un animal a besoin d'Hercher pour devenir un tamé en tant qu'aliment? Ve'atnan, pourtant la Mishnah dit, Shlosha Dvarim Nemru Benivlatov Taor. En fait, il faudrait dire Shlosha Asar Dvarim, hein, je ne sais pas pourquoi on dit trois ici. Trois choses ont été dites concernant le cadavre d'un oiseau pur. Tzricha Machashava, il est nécessaire d'avoir l'intention d'en faire un aliment. Venam Tamea et la Bevetablia. Elle n'aura impur que lorsqu'elle est dans le gosier, dans la gorge. Vena. Nous continuons donc le DAF 51 Amud Aleph. Nous reprenons à la dixième ligne en haut de cette page Nun Aleph A. En effet, là où il est marqué Vatnan. Nous disons donc au Mitzricha Hercher, est-il nécessaire d'humecter une Nivlatov Taor? Vatnan, pourtant la Mishnah dit Shlosh Advarim Nemru Venivlatov Taor. Trois dinim ont été dits concernant le cadavre d'un oiseau pur. En fait, c'est 13 qui est dit dans les autres textes, mais ici on va en citer 3. Tzricha Marashava, il est nécessaire d'avoir l'intention qu'on en consomme. Ena Metamea et la Bevetablia. Elle n'aura impur l'homme qui en consomme qu'au moment où c'est dans sa gorge. Ena Tzricha Hercher, il n'est pas nécessaire de l'humecter. Donc a priori, on a une preuve tout à fait claire. La Gemara répond, une première réponse qui va être ensuite rejetée. Neider, Sheretz Lobaria. Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit touchée par un Sheretz. C'est-à-dire qu'il y a une particularité de ce Kazaï de Nivlatov Taor, que lui-même, en tant qu'aliment, va devenir impur dès qu'il est humecté, sans qu'il ait besoin d'être touché par une source d'impureté. Il est lui-même la propre source d'impureté, et il se rendra, il s'auto-impurifiera, si je peux dire, dès qu'il aura été humecté, parce que, comme le dit l'Agmara, Hercher Maim Baya. Donc la Gemara pensait dire que c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'être touché par une source d'impureté comme un Sheretz, comme un autre Avatouma, il est lui-même Avatouma, Hercher Maim Baya, mais il a quand même besoin d'être rendu mouchard, d'être préparé par l'un des sept liquides. La Gemara dit, Meissner, Shesheret Zelobaya, quelle différence y a-t-il entre le fait d'être mis au contact d'une source d'impureté qui n'est pas nécessaire? Qui des Tana de Rabbi Ishmael, conformément à ce qui a été enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, à savoir Hersher Maimna, à savoir ce qui va être dit un peu plus loin, Hersher Maimna Milotibae, si tel est le cas, il n'est pas plus nécessaire de l'humecter. Qui des Tana de Rabbi Ishmael, conformément à ce qui a été enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, des Tana de Rabbi Ishmael, en effet, voilà l'enseignement qui a été donné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael. On cite ici le pasouk de Vayikra, qui est dans le 11e chapitre de Vayikra, les versets 37 et 38, qui parlent de la manière dont on peut rendre impur des produits agricoles. Et il est marqué là-bas, lorsque une source d'impureté, un sheretz, tombera alcool zera zerua sherizarea, sur toute plante qui a été semée et qui peut avoir été semée. Hein. D'autres disent que 0-0 veut dire toute plante consommable qui a été plantée. Elle reste pure. Mais si, la suite des versets qui n'est pas citée par la Gemara, mais si de l'eau a été mise dessus, à ce moment-là, elle devient impure. De même qu'ici, il s'agit de légumes ou de plantes qui n'ont pas pour qualité, qui n'ont pas pour paramètre de finalement arriver à une toum achamura. C'est-à-dire, elles ne peuvent jamais rendre un homme impur. Tzrichin Hersher, sous-entendu à cause de cette faiblesse en quelque sorte, il faut les préparer en les humectant. Af, kol she'en sofo le tametum achamura. De même, tout aliment qui n'a pas destination finale de rendre impurs les hommes, Tzricha Hersher a besoin ou ont besoin d'être préparé par humectation. Et dit l'enseignement de Rabbi Ishmael, Yatzeta Nivlat Oftaor. Cette affirmation du verset vient exclure le cas du cadavre d'un oiseau pur, chez Sofa le Tametum Achamura, étant donné que finalement, c'est-à-dire lorsqu'elle sera dans la gorge du consommateur, elle rendra impur un homme, Tumachamura, chez En Tsarich Hersher. Elle n'a pas besoin de Hersher. Et là, il est clair, vu le verset cité, que c'est bien du Hersher Mayin dont il s'agit, et que donc il n'y a pas lieu, comme la Gemara le pensait, de distinguer entre Hersher Sheretz, le fait d'être touché par une source de Touma autre qu'elle-même, et le fait d'être préparé avec un des sept liquides. Et là, Marava, mais Veitema Rapapa. Donc, voilà ce que dit Rapapa, ou d'autres disent, voilà ce que dit Rapapa. Lorsque l'on faisait, dans la Braïta, référence à Touma Hamura, on dit Shum Touma Hamura Ovalam. N'importe quel Touma strict au monde qui rend impur un homme, eh bien, n'importe quel Touma strict qui rend impur un homme, en général, il n'est pas nécessaire de Hersher. Shum Touma Kala Baolam, et quand on parle de Touma Kala, de Touma qui rend impur des aliments, on ne parle pas de Touma Kala spécifique, mais de l'intégralité de ce qui rend impur au niveau Kal. En général, on a besoin d'un Hersher. Nous repassons maintenant à ce que disait Rabbi Yochanan concernant la non-portée d'une intention de consommer lorsque le produit agricole est encore dans le sol, puisqu'à ce moment-là, il n'est pas encore légalement considéré comme un aliment du point de vue de son impurification. De même qu'un oiseau qui est vivant n'est pas encore considéré comme pouvant devenir impur. Et alors voilà ce que dit Rava. Amar Rava. Rava, il a dit. Pour autant, Rabbi Yochanan reconnaît en ce qui concerne les prélèvements de la dîme, de Marchevet Ribour Shma Machashava, que l'intention de consommer une plante alors qu'elle est encore attachée au sol, elle a une valeur halachique pour le rendre passible du Maaser. Amar Rava. Rava a précisé. Mana Aminala, d'où est-ce que j'affirme cela? Détnan, en effet, on a enseigné dans le Mishnah de Maasrot, à la fin du troisième Perek, à Sia, vers Aesov, vers Koranit. Il s'agit de trois produits agricoles dont la destination n'est pas toujours évidente. Il est un peu difficile de les identifier, si ce n'est peut-être le Aesov qu'on connaît sous le nom de Isop, qui sont dans une cour. Imayunishmarin, si on a l'intention de les garder, c'est-à-dire que le propriétaire pense l'utiliser comme salade, comme une herbe qui va être, c'est une herbe aromatique qui va être consommée dans l'alimentation humaine, Chayavin, ils sont tenus à l'obligation du prélèvement de la dîme et des autres prélèvements en Eretz Israël. Et dit Rava, Hidami, de quel cas la Mishnah parle-t-il, littéralement, de quoi s'agit-il? Il est Madazar Inumitrila l'Adam, s'il s'agit du cas, il les a semés a priori pour la consommation humaine, Tzricha le Memar, est-il nécessaire de dire qu'ils sont soumis au Maaser? Et la lave, donc, n'est-ce pas, Desar Inu Mitechila, on les avait plantés à l'origine, l'Ibema, pour en faire du fourrage. Mais Katané, or, on nous a enseigné dans la Mishnah, Imayunish Marid Reavin, pour peu qu'on ait l'intention de les garder, ils sont soumis à l'obligation. Amar Ravashi. Ravashi a répondu, Achav Chatzev She'alou Me'elehen Askinan. Il dit non, notre Mishnah parle d'un autre cas, d'une cour dans laquelle ces plantes ont poussé d'elles-mêmes, sans qu'on les ait semées. Ustama Le'adam Kaimé. En général, on considère qu'elles sont destinées à la consommation humaine. Et voilà ce que la Mishnah veut nous dire. Imechatser meshameret perotea. Si la cour est ainsi faite qu'elle protège du pillage ou des animaux ce qu'elle produit, hayavin, ces herbes seront soumises à l'obligation de maaser. Vimlav, et si ce n'est pas le cas, et bien qu'ils se soient effectivement conservés, pturin, ils sont dispensés du maaser. Et donc, Rav Ashi pense qu'on ne peut pas amener de preuves pour la cita de Rabbi Yochanan à partir de notre Mishnah. Mativ Rav Ashi. Et Rav Ashi l'a amené une objection contre... Objection provenant d'une Mishnah que nous avons vue antérieurement et qui disait la chose suivante. Kol shechavin me maasrot. Toute plante qui est soumise à l'obligation de maasrot, mitame'in tumat ochlin, elle devient impure également en tant qu'aliment. Veimita. Et si ce que dit Rava était exact, Haikane, il y aurait le cas de ces Ulshin que l'on plante pour des animaux et qu'ensuite on change d'avis et qu'on les destine à être un aliment humain, le Kachavin me Maaser, on vient de voir qu'après la Chita de Rava, il serait donc soumis à l'obligation de Maaser, Ven Mitamin Tumatochlin, mais pendant ce temps qu'elles sont dans la terre, ne sont pas soumises à l'obligation alimentaire. Amarava, Rava répond, Arikama, voilà ce que la Mishnah veut dire. Kolmin, Shechayav Maaser. Toute variété qui est soumise au Maaser, Metamet ou Matochlin, viendra le moment où elle, en tant qu'aliment, elle sera susceptible de devenir impure en tant qu'aliment. Achinami Mistabra, et Rava dit qu'il est logique que l'on comprenne la Mishnah comme cela. Mide Katani Sefa, étant donné que la fin de cette Mishnah, qui en fait est citée dans le Hamoud Bet de notre Daf, elle dit la chose suivante. Kol shechayav bereshit hagez, tout troupeau qui est soumis au prélèvement des prémices de la tonte de la laine. Hayav matanot est soumis également au prélèvement des matanot de certaines parties de dépeçage de l'animal que l'on donne au Kohen. Yesh shechayav matanot, mais il y en a certains qui sont soumis à l'obligation de donner à Zeroa, l'épaule, va le chayaim et les joues, va keva et la panse au Kohen, va en chayav berishitagez, et malgré tout, ce type de troupeau n'est pas soumis à l'obligation du prélèvement de la tonte. Va im ita. Et si ce que disait la Mishnah n'était pas seulement limité à des variétés, à des espèces animales, on aurait pu trouver un cas où la Mishnah est mise en échec. Ha ika terefa. Il y a le cas d'un animal qui est Terefa, qui a une déchirure qui le rend inapte à la consommation, de Raïved Vreshit Agez, où elle reste néanmoins soumise à l'obligation du prélèvement des premiers produits de la tonte, de la laine, Vena Raïved Mamatanot, mais on n'aura rien à donner au Kohanim, parce qu'on n'est pas tenu de donner au Kohanim les parties en question d'un animal qui n'est non consommable. Amar Ravina, Ravina, il a dit, Hamani. Donc il n'est pas d'accord avec la preuve que Rava apporte de la Mishnah. La Mishnah de Reshit Hagez, de qui émane-t-elle? Hamani, de qui est-elle? Rabbi Shimon, oui, elle vient de Rabbi Shimon. Elle représente l'opinion de Rabbi Shimon, en fait Rabbi Shimon ben Yochai, d'Etania, comme une braïta le dit, c'est une opinion singulière. Rabbi Shimon poter est à Terefa, mais Reshit Hagez. Rabbi Shimon, il dit qu'un animal qui est Terefa n'est pas non plus soumis à l'obligation du prélèvement des prémices du produit de la tonte de la laine. Amar Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi, lui, il dit, Tashma vient et apprend, on va apprendre une preuve pour Rava venant d'une autre Braïta. Amafkir et Karmo, celui qui déclare sans propriétaire sa vigne. Vishkim Baboker ou Vetsaro. Et puis le matin, il se lève tôt avant que quelqu'un ait pu s'en emparer et il vendange le produit de cette vigne. Il est tenu encore à donner aux pauvres les différentes parts de la récolte qui leur reviennent. Peret, olelot, ce sont des grains qui sont tombés ou des grappes qui sont incomplètement constituées. Ou shicha, ou bien des grappes qui ont été oubliées, ou bepea, et encore le coin de la vigne. Ou patou binamaser, mais malgré tout, il y a une obligation à laquelle il n'est pas soumise, celle de prélever le baaser, parce que c'est efker. Et pourtant, nous avons appris notre Mishnah, kol shechayav bepea, chayav maasrot. Chaque fois qu'une espèce, enfin que quelque chose est soumis à la paix, elle est soumise à maasrot. Et apparemment, on aurait ici une contradiction. Et la lave, shemamina. Donc, déduit de la min, Katané, que ça veut dire l'espèce, la variété du raisin est soumise à l'un, elle est soumise à l'autre. Mais c'est vrai qu'on aurait là encore pu trouver un cas spécifique et des circonstances particulières où il y aurait une obligation de PA, où il y aurait une absence d'obligation pour le maaser. Shmamina, dit la Gemara, déduit effectivement de là que dans nos Mishnayot, il s'agit d'une espèce dont on parle et pas d'un cas particulier avec des circonstances spéciales qui font qu'on pourrait trouver que l'un est obligatoire et l'autre non. Nanatam, il a été enseigné là-bas, c'est-à-dire, c'est une Mishnah qui est dans le troisième chapitre de PA, la deuxième Mishnah. Voilà ce qu'elle dit. Modim Chachamim Rabbi Akiva. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Bezore Hashevet Ochardal Bishtaim Ushlosha Mekomot. Que lorsque quelqu'un, sème, plante de l'anis ou de la moutarde, en deux ou trois endroits d'un champ, chez Noten PA Mikolechad Vechad, qu'il doit donner, la PA, de chacune des petites plates-bandes où il les a semées, contrairement à ce qu'on avait dit précédemment pour des oignons, où si on disait qu'il y avait des rangées d'oignons, il y avait une discussion entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Ici, on a l'habitude de ne pas planter ces herbes-là sur des longues rangées, mais on en met par petits endroits. La Mishnah elle-même dit clairement qu'il y a une obligation de PA. Et la Gemara va en déduire toutes sortes de choses.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf 51b.
Tosda, Shevet, pourtant, l'anis. Le Mikhaïev PA qui est soumis à l'obligation de PA, au Mikhaïev Maaser. Et il est tenu à l'obligation de maaser d'itnan, comme on a enseigné dans une Mishnah, kol shechayav pa, chayav maaser. Le fait qu'il y ait une obligation de prélèvement de la pa, c'est-à-dire de, en fait, laisser plutôt, pour être exact, le coin pour les pauvres, chayav maaser, il est tenu au prélèvement de la dîme, ou mit chayav maaser. Et puisqu'il est tenu au prélèvement de la dîme, toujours d'après nos Mishnayot, mitamem tumat ochlin, il va, être susceptible d'avoir l'impureté des aliments. Alma, donc, on peut en déduire que tout produit qui est destiné à donner un goût, puisque l'anis n'est pas consommé directement, mais il est plutôt destiné à donner un goût, de même que la moutarde, mais il est bien qu'il n'est pas un aliment lui-même, mais il n'est qu'un condiment en quelque sorte, il est affecté éventuellement de la touma des aliments. En effet, l'anis n'est là que pour donner du goût. Urmini, et on objecte là-dessus. Une Mishnah qui est dans Uktsin, toujours le troisième chapitre de Uktsin, mais c'est la Mishnah 5. Et on donne un certain nombre de condiments ou d'herbes qui sont destinées à aromatiser. Akosht, Vachimum, Vachem et Samim. On a du mal à traduire, mais tout cela, Vachem et Samim, sont justement des herbes odoriférantes. Vatia, Vachiltit, Vachilpelim, Vachalat Charia. Donc tout cela, ce sont des genres de safran, de poivre, etc. Donc des herbes qui sont destinées à donner une saveur à d'autres aliments. Alors tout cela, nikachin bechesef maaser. On a le droit d'acheter ces condiments et ces herbes aromatiques avec l'argent du maaser. Il s'agit de l'argent du maaser sheni. Rappelons que le maaser sheni, la deuxième dîme qui doit être prélevée en Eretz Israël par les agriculteurs, elle est réservée à la consommation à Yerushalayim. Maintenant, si elle est trop abondante ou s'il est difficile de l'amener à Yerushalayim, on peut l'échanger contre de l'argent. Cet argent, qui s'appellera Kesef Maaser Sheni, lui-même va être affecté de la Kedusha du Maaser Sheni. Et on ne pourra racheter en échange qu'un certain nombre d'aliments. Et on nous dit dans cette Mishnah que l'on peut acheter ces herbes odoriférantes avec l'argent du Maaser. Et ajoute la Mishnah, « Ve'en metamein tumatochlin » ces herbes qui donnent de la saveur, qui sont odoriférantes, non pas la tum'a des aliments, dit vrai Rabbi Akiva, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan, le fils de Nouri, a objecté Rabbi Akiva. Im nikachin bechesef maaser. S'ils ont la possibilité d'être acheté, d'être échangé contre de l'argent du maaser. Mitne ma en mitamin tuma tochlin. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas affectée de la tum'a des aliments? Vim enam mitamin. Et si tu me maintiens qu'elles ne peuvent pas devenir impures à titre d'aliment, il en résultera logiquement qu'elles ne doivent pas pouvoir être échangées, être achetées contre l'argent du maaser. Et Rashi justifie la logique en question en citant le pasouk qui est dans Devarim, en parlant justement de ce rachat d'aliments avec l'argent du maaser. C'est marqué Venatata, Kesef, etc. Veachalta, l'ifinashim lokecha. Tu échangeras cet argent contre des produits que tu consommeras devant Kadosh Baruch Hu. Il faut donc que ça s'appelle un aliment. Et dit la Gemara Nimnu Vegamru, les Chachamim à l'époque ont fait le compte de leurs opinions et ils ont décidé, chez En Nikachin Bechesef Maaser, que premièrement ce genre de condiments ou d'herbes aromatiques, d'épices ne peuvent pas être achetés en échange de l'argent du Maaser, En Mitamein Tum Atochlin, mais qu'également ils ne peuvent pas le vecteur de la touma des aliments. Et donc il reste la question, pourquoi est-ce que le chevet, l'anis, serait soumis à la touma des aliments? Amar Rav Chisda a répondu à cette objection, Kitan Yahai, lorsque cette Mishnah a été enseignée, le chevet asui el chamar, il s'agit d'un type particulier d'anis qui est destiné à être mis dans dans une sauce qu'on appelle kamar, et là-bas on mange l'anis en question, ou la nette, en tant que légume. Donc dans ce cas particulier, il y aurait effectivement la touma alimentaire, et également ce type de préparation particulière de l'anis, du chevet, pourrait être acheté avec l'argent du maaser chedi. Mais dans le cas où il est utilisé uniquement pour donner un goût à d'autres aliments, et que ce n'est pas lui-même qui est l'essentiel de la préparation, on ne peut pas l'acheter contre l'argent du maaser, on ne peut pas non plus, il n'est pas non plus considéré comme un aliment au niveau de la Touma. Amar Ravashi. Ravashi a dit là-dessus, Amrita le Shmate Kamed Rav Kahana, j'ai apporté cet enseignement devant Rav Kahana. Amar, le terme ne figure pas, mais il faut comprendre que Rav Kahana lui a rétorqué, La Tema Beshevet Rasu et le Kamar. Ne parle pas qu'il s'agit du cas où on a spécialement destiné cet anis à cette préparation de Kamar. Astamalikdera, ce qui sous-entendrait que normalement il est destiné à donner simplement du goût à un aliment, et la stam chevet le kamachasuya. Dit plutôt qu'en général on plante l'anis pour qu'il soit la partie principale de ce condiment qu'on appelle le kamar, qui est donc un genre de koutar de sauce, comme le dit Rashi. Et donc, autrement dit, normalement, l'anis est considéré comme soumis à la tum'a tochlin. Et Rav Ashi va amener une preuve de la Mishnah. Dites-nous, on a appris dans une Mishnah qui est encore dans Uktsin, à Chevet, de l'anis. Alors il s'agit ici d'anis qui lui-même est de l'anis qui fait partie de la Torba. Mish et Natnata Mikdera. À partir du moment où cet anis a déjà laissé échapper son goût dans un premier plat, Enba Mishum Teruma, elle n'est plus considérée comme ayant un nom de Teruma. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, que si elle est tombée une seconde fois dans un autre plat, bien que dans le premier plat ça s'appelle Gimua, c'est-à-dire un mélange de teruma à cause du goût de cet anis et du plat qui était chulin, qui était non teruma, donc il y a un problème et ça ne peut être consommé que par un Kohen, dans la deuxième chute dans un plat, enba mishum teruma, ayant perdu son goût, n'ayant plus la force de donner un goût au deuxième plat, il n'y a plus de problème de teruma et le second plat dans lequel elle est tombée peut être consommé même par un non Kohen. Ve'enam tamena tuma tochlin, et elle n'a plus non plus la tuma de ochlin à partir du moment où elle a exhaler son parfum. Ça n'est plus un aliment, en quelque sorte. Ah! Il en résulte donc, d'après cette Mishnah, Atchelon Atnatam Migdera, que tant qu'elle n'a pas donné son goût au premier plat, Yeshba Mishum Teruma, elle est soumise à la catégorie de Terouma, Metamea Touma Tochlin, et elle est également impure en tant qu'aliment. Vis al kadatas tamaligdera. Or, si tu pensais que normalement la destination habituelle du chevet, c'est de donner un goût à un autre aliment, kilonatananami stamaligdera. Quand bien même elle n'aurait pas encore donné son goût, elle devrait être considérée comme n'étant utilisée que pour donner un goût à autre chose, elle ne devrait pas avoir la touma alimentaire. Et la lave, donc, déduit de cette Mishnah par ce raisonnement, Shmamina déduisant Stama le Kama Hasuya, que l'usage normal ou habituel de cette variété d'anis qui s'appelle Chevet, c'est de le mettre comme texture, comme aliment principal dans le kamar, dans cette espèce de condiment. Et l'Agmara dit, Shmamina, effectivement, la preuve qui est apportée de cette Mishnah est une preuve que l'Agmara retient. Nous passons donc à la Mishnah suivante. Encore deux cas où on a A sans B, mais on ne peut pas avoir B sans A. On ne peut pas en dire davantage, voyons tout de suite les cas concrets qu'on a d'ailleurs rencontrés il y a peu. Kol Shechaya Bereshitagez, tout ce qui est soumis à l'obligation de prélèvement des premiers résultats, des premiers produits de la tonte, Chayav Matanot, il faut également donner les parties de la viande au Kohen, à savoir Zeroa, le Chayaim Mekeval, l'épaule, les joues et la panse. Veyez Shechaya Matanot. Mais il y en a qui peuvent être soumis à l'obligation de donner ses parties au Kohanim, sans être pour autant soumis à l'obligation du prélèvement du début de la tonte. Deuxième partie de la Mishnah, Kol Sheshlo Bi'ur, ceci concerne l'année de Shemitah. Et voilà ce que dit la Mishnah, Kol Sheshlo Bi'ur, toute plante qui est soumise à l'obligation d'être sortie de la maison littéralement, l'année de Shemitah, comme le dit le verset, que lorsque si on ne trouve plus de cette plante dans les champs, à la disposition des animaux sauvages, on doit également les sortir de la maison. Yesh lo shvit, il est également soumis à l'obligation de Shemitah, c'est-à-dire d'abord que le propriétaire doit le déclarer efker, c'est-à-dire la propriété de tous. Asur la sotan shora, il est interdit d'en faire également, comme le dit Rashi, du commerce, ou bien d'en faire un médicament, ou encore de s'en servir comme afiktoizen, c'est-à-dire un produit dont on se sert pour autre chose que pour le manger, mais pour au contraire provoquer un renvoi, c'est-à-dire pour se faire vomir. Et alors, par contre, la Mishnah dit, il y a certaines plantes qui sont soumises à l'obligation de suivit, mais qui n'ont jamais le moment du biour qui arrive, en fait parce que il y en a toujours dans les champs. La Gemara va donner un exemple d'un produit qui est sujet au biour et également au suivit, y compris à l'éalouf vesoté vadandana, y compris les feuilles de la plante sauvage qu'on appelle louf, et également dandana qui est un genre de plante de menthe, un type de menthe, il s'agit donc des feuilles de menthe. En fait, les commentaires disent qu'on mentionne ces deux plantes parce que on pourrait faire une différence entre les feuilles et les racines, comme ceci sera expliqué. Maintenant, l'Agmara parle de la fin de la Mishnah. Yeshesh, le Shemit et le Bio, il y a des plantes qui sont soumises à l'obligation de Shemitah, notamment d'être rendues efker, sans propriétaire, etc., ven le Bio, mais qui n'a pas de moment où on doit le faire sortir de la maison. Et alors voici ce que l'Agmara va expliquer à ce propos. Ikara louf shotevi ikara dandana. Il s'agit des racines de la plante qu'on appelait louf, le louf sauvage, et la plante de la menthe. Dirtiv, en effet, il est écrit à propos de la shmita, velivem techa velchaya shaber tzirat yechol tvoata lechol. Et pour ton animal domestique et pour les animaux sauvages qui sont dans ta terre, toute cette récolte sera à consommer. Tant que l'animal sauvage peut en consommer dans le champ, c'est-à-dire qu'il en reste, tu peux le donner également à manger à ton animal domestique chez toi. Mais si c'est terminé pour l'animal sauvage dans le champ, donc une fois que le produit a disparu des champs, tu dois cesser d'en donner à l'animal domestique et dans ta maison. Ve'ane lo chalou lehu. Or, ses racines ne disparaissent jamais. Mishnah suivante. Concernant les poissons, d'abord, kol shesh lo kas keset yesh lo snapir. Tout celui qui a des écailles, il a également des nageoires. Ve yesh shesh lo snapir ve no kas keset. Mais il y a des variétés qui ont des nageoires et qui n'ont pas d'écailles. Deuxième partie de la Mishnah, kol shesh lo karnaim yesh lo tlafaim. Tout celui qui a des cornes, il a également des sabots séparés. Ve yesh shesh lo tlafaim. Mais il y en a qui ont des sabots séparés, mais Enno Karnaim qui n'ont pas de cornes pour autant. L'exemple que donne Rashi, l'exemple du porc qui a les sabots fendus et qui vraiment n'a pas de cornes. La Gemara s'intéresse au début de la Mishnah. Kol shesh lo kas keset, tout celui qui a des écailles d'Aktaor, et en fait, compte tenu du fait qu'il a des écailles, il s'agit d'un poisson qui est autorisé à la consommation, qui est kasher. Yesh yesh lo sapir vedo kas keset. Il y en a qui ont des nageoires et qui n'ont pas d'écailles, d'actamé, et donc il en résulte qu'ils sont des poissons non cachers. Autrement dit, il suffit de voir des écailles sur un poisson pour savoir qu'il est cachère. L'agma dit, mirde, pourtant, anan, akaskeset, samchinan, puisque nous nous appuyons pour reconnaître le caractère autorisé d'un poisson sur les écailles, snapir de khatav rahmanan amali. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a-t-il écrit dans la Torah qu'ils doivent également avoir des sénapires, c'est-à-dire des nageoires? L'Agma répond, il a katav rahmanan snapir, si la Torah, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas écrit dans la Torah le mot sénapir, avait amina mai kaskeset dirtiv, j'aurais pu interpréter à tort le mot kaskeset qui est écrit comme étant sénapir, comme étant des nageoires. Et donc j'aurais pu, à tort, considérer que tout poisson qui a des nageoires autorisées va filou d'acte, même les poissons qui en réalité sont interdits à la consommation et sont donc cachers. Alors pour éviter cette confusion, Katav Rahamana Snapir et Kaskeset, Akadosh Baruch Hu a écrit les deux signes, c'est-à-dire Snapir et Kaskeset, et l'un des deux obligatoirement sera les écailles, et donc on exigera qu'il y ait des écailles avant de considérer qu'un poisson est cacher. L'Agma n'est pas satisfait de cette explication diverse de Katav Rahamana Snapir et Kaskeset. Mais puisque maintenant Akadosh Baruch Hu a écrit ces deux termes, Snapir et Kaskeset, Menalan, d'où savons-nous de Kaskeset le Vushaou, que Kaskeset c'est littéralement l'habit, c'est-à-dire qu'il s'agit des écailles et non pas des nageoires, dirtiv. Et on répond parce qu'il est écrit, il s'agit d'un verset concernant le fameux géant Goliath qui était recouvert d'une cuirasse, et on dit à propos de cette cuirasse, le Sirion, Kaskasim ou la Vush. Il était vêtu d'une cuirasse faite de kaskasim, autrement dit en partie métallique tressée, et donc il est clair que kaskasim recouvre tout le corps. L'Agma demande dans ce cas-là, puisqu'on a ce pasouk qui est clair, velir tov rachamana kaskeset elobais napir, on revient à la question initiale, il aurait suffi qu'Akadosh Baruch Hu écrive kaskeset dont on sait que ce sont les écailles, et il n'est pas nécessaire d'écrire le mot snapir. Amar Rabbi Abaou, la Tzir Rabbi Abaou répond, Vechentanat de Rabbi Ishmael, la même réponse était donnée à la Yeshiva de Rabbi Ishmael, Yagdil Torah Viadir, on cite le verset, Akadosh Baruch Hu a grandi la Torah et l'a rendue plus grande, plus redoutable, littéralement, tout simplement, c'est-à-dire, d'après certains Rishonim, qu'on a voulu éviter le moindre doute au sujet de la manière dont on détermine le poisson kasher, bien qu'on aurait pu faire cette déduction du verset qui est dans Shmuel, ce verset concernant Goliath. Cependant, la Torah a préféré mettre en quelque sorte les points sur les i. Il y a également d'autres interprétations de la raison de cette citation de verset, notamment voir le lait varié d'Orchulin sur place pour savoir si l'indice des nageoires et des écailles est simplement une preuve que le poisson est à or, ou si c'est la cause même de l'autorisation du poisson. Nous passons à la Mishnah suivante. Kolaton bracha le'acharav, taton bracha le'fanav. Autrement dit, tout celui qui demande une bracha après exige aussi une bracha avant. On reste dans le vague, on verra pourquoi dans la Gemara. Veyesh taton bracha le'fanav, mais il y a un cas où il est demandé une bracha auparavant. Veyesh taton bracha le'acharav, mais il n'a pas besoin de bracha après. Et la Gemara se demande tout de suite, la Touyemaï, qu'est-ce que l'on veut inclure en disant qu'il y a quelque chose pour lequel il y a une bracha avant, mais il n'y a pas de bracha après. La Gemara répond, la Touyeyarak, ceci vient inclure les légumes, c'est-à-dire que si on les plantes, si on consomme une plante, on a, d'après cette opinion, pas besoin de faire une bracha acharona, de dire borei nefashot après. La Gemara dit, ceci est bien d'après les autres, mais où le Rabbi Yitzhak de Mevarech Hayak, mais d'après l'opinion de Rabbi Yitzhak qui dit qu'on dit une bracha après avoir consommé des herbes, les atou yemaï, qu'est-ce que la Mishnah vient inclure? La Gemara répond, atou yemaï, ceci vient inclure le cas de l'eau. Si on boit de l'eau, on n'a pas besoin de faire de bracha après. Encore une objection. Ou le Rav Papa de Mevarech Hamaya, enfin plutôt une précision. D'après Rav Papa, qui lui qui dit qu'on fait une bracha, borei nefashot, après avoir bu de l'eau, les atou yemaï, qu'est-ce que la Mishnah vient inclure? Et là-dessus, on répond quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la consommation. On dit, les atouye mitzvot. Ça vient inclure les mitzvot. Autrement dit, on fait une bracha avant les mitzvot. On ne fait pas de bracha après l'avoir terminé la mitzvah. La Gemara n'est pas satisfaite. Velivne ma'arava, et pour ceux de l'Occident, c'est-à-dire pour les habitants d'Eretz Israël, rappelons que notre Gemara, bien entendu, c'est Talmud Bavli, c'est le Talmud de Babylone, et que donc pour les rédacteurs de ce Talmud, lorsqu'on parle des gens d'Eretz Israël, on parle de ceux qui sont à l'ouest, donc les gens de l'Occident, ma'arava. Qui ont l'habitude de dire une bracha après avoir enlevé leur téphiline. Et on donne le texte d'Abracha Asher, qui déchanou, mitzotav, et tivanou, lishmaor, choukav, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné de respecter les lois et les décrets qu'il a institués. L'atouye maï, qu'est-ce que la Mishnah vient inclure? La Gemara répond à tout, et ceci vient inclure.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.